toutes. Vous écoutez Retour vers le cinéma, vous êtes sur CFM Radio. Et aujourd'hui, pour la toute dernière émission, tous les trois, nous sommes présents avec, du coup, Vadim.
Bonjour tout le monde.
Et Elodie.
Salut à tous.
Et moi-même, Lina. Aujourd'hui, programme un peu plus spécial que d'habitude, et puis vous verrez pourquoi.
Suspense.
Voilà, voilà. Et Vadim, je te laisse commencer.
Et c'est l'heure maintenant de la Minute Info, et pour aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu spécial. On ne va pas parler des films qui vont sortir prochainement, mais les films actuellement au cinéma que je vous recommande. On commence avec le volet de la science-fiction, c'est Disclosure Day, qui va marquer un grand retour de Steven Spielberg au thriller paranoïaque. C'est un récit d'anticipation assez tendu, porté par Emily Blunt et Josh O'Connor, avec David Koepp au scénario et une bande originale signée John Williams. Ensuite, on enchaîne avec un registre plus familial. Pixar va nous proposer Toy Story 5. Mise en scène par Andrew Stanton, côté production, on notera que Taylor Swift a composé un titre original pour le film. Et c'est un projet calibré pour le grand public, qui mise avant tout sur la nostalgie et les retrouvailles avec ses personnages bien connus. Et pour les animateurs de cinéma de genre, il y a aussi Backrooms, produit par le studio A24 et réalisé par Kane Parsons. Au-delà de sa proposition visuelle, le long métrage s'appuie énormément sur son sound design et son ambiance sonore pour créer une expérience d'immersion assez étouffante. Et on termine cette sélection avec Obsession, c'est un thriller psychologique qui s'intéresse aux dérives de la fixation mentale et aux dynamiques de contrôle. Tout est soutenu alors par un travail précis sur l'atmosphère. Une proposition intéressante pour les amateurs de récits intimistes et de suspense psychologique. Voilà pour le tour d'horizon des salles et on va enchaîner directement avec le qu'est-ce que t'as vu. Eh bien Lina, qu'est-ce que t'as vu cette semaine?
Eh bien cette semaine, Vadim, j'ai revu un documentaire de Raphaël O'Byrne. C'est L'amour tout court sur le photojournaliste Henri Cartier-Bresson. Je ne sais pas si tu connais.
Non.
Alors en fait, Henri Cartier-Bresson, il différencie le fait de regarder et le fait d'identifier une photo. Dans le sens où regarder, ça se rapporte à tout ce qui est sensible, c'est vraiment... Il y a ce quelque chose, tu vois, ce quelque chose qu'on n'arrive pas toujours à expliquer. Alors qu'identifier, c'est un peu plus passif. Bon, après c'est peut-être parce que je suis passionnée par la photo aussi, mais moi ça m'a captivée, vraiment, j'ai adoré ce documentaire, j'ai ri, j'ai pleuré, ça m'a énormément touchée, j'ai adoré. Donc j'ai mis 5 petites étoiles sur 5, voilà. Et toi, Vadim, qu'est-ce que t'as vu cette semaine?
Eh bien, cette semaine, j'ai pu voir Obsession, réalisé par Curry Barker. C'est la nouvelle bête horrifique du moment, le phénomène de festival dont la bouche à oreille est ultra flatteur. Et je vous avoue que je me suis d'abord beaucoup méfié. Pourquoi? Eh bien, parce que la dernière fois, je me suis un peu fait enfler par Zach Krieger, que ce soit comme réalisateur sur Évanoui ou comme producteur sur Companion. D'ailleurs, Companion revient souvent en mémoire ici, pour la parenté de sa thématique. Sauf que voilà, Obsession s'est réussi là où Companion s'est copieusement vautré. Pour le pitch rapide et sans spoiler, c'est l'histoire d'un vœu qui va catalyser la chute du protagoniste. Une dynamique de malédiction vue, revue et re-revue. Mais visiblement, ce n'est pas ce qui intéresse Curry Barker ici. Le réalisateur, lui, il va esquiver tout de suite le piège de s'acharner à donner une ressemblance à la mythologie de son artefact ou encore même d'improviser des règles sans queue ni tête. Le film ressemble plutôt à un épisode particulièrement oppressant de la quatrième dimension qui aurait été un peu rebooté. C'est une fable horrifique sur un prince pas très charmant, incapable de saisir sa chance, maladroit, fragile, et qui va privilégier la facilité au dialogue et à la franchise pour faire comprendre à la fille de ses rêves eh bien, qu'il aime et qu'il existe. Et la force du film, c'est que même s'il succombe à ses désirs, l'acteur Michael Johnston n'en apparaît pas pour autant totalement antipathique ou détestable immédiatement. On compatirait presque à son long cauchemar, qu'il a pourtant désiré lui-même. L'amour ici, ce n'est que de la façade. Il est contraint, avec un message hyper maîtrisé et pertinent sur l'emprise, le consentement et la masculinité toxique. Le réalisateur embrasse un peu chaque aspect par une situation, un regard, une ligne de dialogue. Et quand le sourire trop parfait de l'amour laisse place à un corps inquiétant qui fait peur, oui, eh bien la belle histoire se transforme soudain vers des scènes qui, avec du recul, démontrent du viol. La souffrance féminine fait surface à certains moments, comme dans Get Out, avec des images de bonheur figé qui donnent une drôle d'atmosphère au film. Et plus que Michael Johnston, qui ne démérite pas, bien évidemment, il est très bon acteur, hein, mais la performance de l'actrice Indy Navarrete, waouh. Elle réussit un impossible grand écart, elle nous fait croire à ce corps parfait et à cette histoire d'amour, et en même temps de nous montrer la souffrance et la douleur de son personnage. Côté mise en scène, le film y ménage longuement ses screamers, qui sont parfois tétanisants. Ils se fondent d'abord sur une idée de malaise, un lent crescendo cassé par des subits coups d'accélérateur très très efficaces. Et c'est l'histoire d'une romance en forme d'amour pour toujours, mais qui reste quand même un amour très mortel. Bref, vous l'avez compris, mon avis, il est tranché, il faut y aller. La critique ne mentait pas cette fois-ci, et avec Obsession, Curry Barker, c'est un réalisateur à suivre de très près, 9 sur 10.
J'ai pas aimé.
Va te faire... Pourquoi ?
Alors moi, j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça un peu trop simple comme film. Je saisis l'originalité du film, je saisis les enjeux, mais je trouve que c'est pas forcément une bonne manière de le montrer. Je suis peut-être un peu chiante, mais pour moi, c'est juste... ouais, l'amour, faut pas le forcer, parce que sinon, c'est dangereux. Et voilà, tu vois, j'ai l'impression que ça va pas beaucoup plus loin. Après, je peux comprendre qu'on aime bien. Je sais que Achille, avec qui on est allé voir le film, s'est chié dessus. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec l'horreur. En plus, j'ai trouvé ça trop prévisible. Mais vraiment trop prévisible. C'était évident, en fait, à chaque fois qu'il allait avoir un truc, on allait dire, OK, bah, va faire ça, ça, ça. Et c'était lassant, à force. Parce que bon, prévoir le film 2-3 fois de temps en temps, c'est cool, hein, mais quand tu prévois tout le film, tu te fais vite chier. Mais malgré tout, l'actrice Indy Navarrete est relativement plaisante à regarder, voilà. Donc ça va. Ça va.
Et toi, Elodie, qu'est-ce que t'as vu cette semaine ?
Bien, vas-y, cette semaine, eh bien, j'ai vu Backroom, qui est distribué par A24, et je pense que je vais lui donner un petit 4 sur 5. Tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé le respect de l'univers des Backroom tel qu'on le connaît sur Internet. La mise en place des décors, elle est super impressionnante, surtout quand on sait qu'une grande partie a été construite par les réalisateurs eux-mêmes sur le plateau. Le jeu des acteurs, il est très convaincant, et les effets maquillage sont vraiment réussis, ce qui renforce énormément l'immersion du spectateur. En revanche, le film reste quand même concentré sur un seul niveau des backrooms et sur l'aspect psychologique de l'histoire. Ça peut donc laisser certains spectateurs sur leur faim, mais on sent clairement que les bases d'une suite, eh bien, elles sont posées. Malgré ça, le film laisse énormément de théories possibles, tout aussi bien amenées, ce qui donne envie d'en discuter et de voir où l'histoire ira ensuite.
Eh bien, merci beaucoup Elodie. Et avant de faire la petite pause musicale, on vous a préparé une toute petite chronique spéciale sur les films que l'on a pu voir durant une soirée à la Muse. Ce sont les films que l'on a réalisés avec nos groupes pour le bac à lauréat de cinéma. On va commencer par Lina. Lina, dis-nous ce que tu as pensé d'un certain film.
Eh bien alors, moi je vais commencer avec un film qui s'appelle Angle Mort, je ne sais pas si vous connaissez, réalisé par Achille Frézoul, Elodie Danès et Vadim Desaulnay.
Merci.
Parce que là, c'est vous, en fait, ouais, je ne sais pas si vous êtes au courant.
Ouais, c'est ça.
Voilà, c'est vous. Écoutez, eh bien, je pense que vous connaissez tous les deux mon avis sur votre film.
Douleur visuelle.
Ah, c'est vrai que vous avez tourné au téléphone quand même.
Après, on a un tellement bon son. Ça rattrape tellement.
Oui, c'est vrai que vous avez vraiment un son génial. Pour expliquer un petit peu aux spectateurs, ils ont fait un film d'horreur, en fait. Je vous laisse faire le synopsis de votre propre film, peut-être.
Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, après avoir commis un meurtre, il va se retrancher dans sa petite maison de campagne et des événements surnaturels vont commencer à se produire de plus en plus intenses jusqu'au climax. Et voilà.
N'oublie pas qu'il est sourd.
Ah oui, aussi, il est sourd. Très important dans le film. Personne ne l'a remarqué, mais il est sourd.
Ouais.
Voilà, c'est pour ça. Il faut le dire. À la fin du film, il faut dire, oui, il est sourd depuis le début.
À part ça, le fait qu'on n'ait pas compris ça et que ce soit tourné au téléphone, bien sûr. Votre film était relativement génial. Il n'est pas si prévisible que ça, contrairement à Obsession.
Arrête, tu me fais rire, Lina. Non, je plaisante. Vas-y, continue.
Mais toi, t'as pas aimé ton propre film. Mais moi, vraiment, je suis trop fière de vous. J'ai vraiment beaucoup aimé. Vous avez aussi bien travaillé la lumière, même si c'est tourné au téléphone. J'ai beaucoup aimé les gros pieds d'Elodie aussi.
Merci, oui.
Qui est actrice aussi dans son propre film, qui joue la morte.
Oui.
Et oui.
Je joue très bien la mort.
Oui. Bon, une fin peut-être un petit peu prévisible, mais pour moi, ça reste un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de space ciné.
Faut pas oublier d'ailleurs qu'on a gagné le prix du public.
Et vous pourrez le retrouver sur Letterboxd si vous voulez le Notez, vous ne l'avez pas vu, mais notez le 10 sur 10 quand même. Voilà. Même si vous ne l'avez pas vu, ça va nous faire plaisir.
Le mec s'est noté 4 sur 10 à lui-même.
Angle mort, mettez 5 étoiles sur 5. Voilà. Et dites que c'est un chef-d'œuvre, que ça vous a changé votre vie, que votre femme est revenue. Eh bien, moi, en l'occurrence, je vais parler de Caché.
Ah bon ?
C'est le film de Lina. Waouh ! Quelle surprise !
Oh, quelle surprise !
On est tellement étonnés.
Mais je préfère aussi mentionner mes collègues hein, avec moi, Mathis Alamijon, Anachaï Bensoussan et Loureuse Jouanet.
Bien, déjà, waouh ! Waouh, Lina ! Je pense que oui, on a l'habitude avec toi, que tu nous montres ton amour pour l'image, et ça s'est vu dans ton court-métrage. Le travail de la photographie, il est excellent. Et dans ce cadre-là, elle a gagné le prix du jury de la photographie. Donc félicitations à toi, Lina.
Ben, merci beaucoup. C'était celui que je voulais.
Et pour vous faire un petit speech, on suit un personnage qui est coincé.
Sinon, je le fais.
Non.
On suit l'histoire de Maëlle dans un monde dystopique où les émotions sont arrêtées par les médicaments qui, par inadvertance, évidemment, va arrêter ses médicaments. Et donc, on voit qu'il découvre la vie avec les émotions positives, mais aussi négatives. Et on le suit face à son entourage, notamment sa mère, qui, elle, est toujours sous l'emprise de ses médicaments et donc qui ne ressent rien.
Bah, écoute, merci Lina, c'est exactement ce que j'ai vu comme film. et donc, moi, ce que je trouve... c'est que la gestion au niveau du temps, elle a été super bien maîtrisée. Parce qu'il faut savoir que ces films sont des films qui ont une durée imposée de 10 minutes. Et le scénario, il était assez visionnaire. Et pourtant, dans ce cadre temporel, il est très bien introduit et très bien respecté. Donc franchement, moi je dis 7 sur 10, Lina. Bien joué.
Bah merci beaucoup. On a eu quelques petits soucis. Il est vrai que je ne suis pas fière de tous mes plans non plus. Mais bon, on ne peut pas être parfait. C'est comme ça. Et en tout cas, je pense que c'est des bonnes expériences aussi qu'on a pu vivre cette année avec la spécialité cinéma. Et je ne regretterai jamais d'avoir pris cette spécialité d'ailleurs.
Et donc c'est l'heure de la petite pause musicale pour respirer un bon coup. On se retrouve juste après pour notre toute dernière grande chronique avec Let It Go d'Idina Menzel.
En fait c'est la Reine des Neiges.
The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. It's funny how some distance makes everything seem small.
Let it go, cold never bothered me anyway.
Et vous êtes de retour sur CFM Radio. C'est la dernière fois que je le fais celui-là. Ça va manquer à personne, je pense. Vous écoutez toujours Retour vers le cinéma et tout de suite, on passe à la dernière chronique.
Et voilà, nous y sommes, la dernière chronique de l'histoire de Retour vers le cinéma. Et pour marquer le coup, on a décidé de mettre de côté la nostalgie poly pour faire un vrai bilan de fin de saison. Et je vous ai préparé un petit questionnaire sur mesure. Je vais faire un petit tour de table, mais avant je vais commencer pour vous montrer un peu comment on va faire. Le film le plus surcoté de la saison. Moi je commence un peu fort, celui que toute la critique a encensé, qui a raflé le Grand Prix à Cannes, le trophée du meilleur film international aux Oscars, et que vous devez indéniablement adorer, j'espère pas, Afex Conjons Verdi. Vous connaissez pas le titre ? C'est le titre original, sinon c'est Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Désolé de casser l'ambiance, mais pour moi, c'est beaucoup trop élitiste, chiant et long. Alors oui, la performance de Stellan Skarsgård, elle est impeccable. Oui, c'est le grand retour de René Trentz, mais on touche vraiment aux limites du cinéma méta et ultra nombriliste. Cette histoire de vieux réalisateur égocentrique qui instrumentalise ses propres névroses familiales et finit par caster une star d'Hollywood pour jouer le rôle de sa propre fille, c'est du vu, revu, c'est déjà un cliché vu mille fois. Trier et Skillvogt au scénario, il nous rejoue la carte de la mélancolie existentielle, sauf que cette fois, le dispositif est beaucoup trop propre, trop poli, presque calculé pour la saison des prix. Et toi, Lina, c'est quoi pour toi le film le plus surcoté de la saison ?
Eh ben moi, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Je pense que je vais rester sur Obsession, hein, vraiment. Même si c'est le plus récent, je crois que j'ai jamais vu un truc que j'ai autant détesté cette année que ce film, quoi. Donc ouais, ça tombe bien, c'est récent, bah Obsession. Hein. Et toi, Elodie ?
Et moi, je pense que j'ai envie de vous parler de Okum. C'est un film d'horreur qui est sorti cette année, donc en 2026. En fait, je l'ai trouvé énormément surcoté, tout simplement parce qu'il est très prévisible. J'ai pas trouvé l'intrigue super attrayante pour le spectateur. Pour être honnête, moi, je me suis fait chier pendant une heure et demie parce que tout était très prévisible et j'avais réussi à calculer tout jusqu'à la fin. L'histoire, du coup, ne m'a pas du tout surpris. Les rebondissements, ils sont ultra faciles à deviner et en fait, j'ai pas réussi à rentrer dans le film jusqu'à la fin. Donc, j'ai juste trouvé la séance très longue.
En vrai, je suis d'accord avec toi, Elodie, je te rejoins, c'est dommage parce que moi, j'ai un peu mieux aimé que toi, mais c'est une vraie déception ce film. La sortie cette année que l'on regrette d'avoir loupé au cinéma. Alors moi, de mon côté, le film que je regrette d'avoir manqué en salle cette saison, c'est Aucun autre choix de Park Chan-wook. C'est un thriller noir qui est une réécriture du Couperet de Costa Grava avec José Garcia, que j'avais adoré, et du coup, bah, j'ai le seum. Et toi Lina, c'est quoi le film que tu regrettes d'avoir loupé cette année ?
Moi, mon regret, c'est Bugonia. J'aurais beaucoup, beaucoup aimé le voir, parce que je sais que c'est un réalisateur complètement barré, que j'aime énormément pourtant. Je sais que j'étais allée voir Pauvre Créature au cinéma et j'avais vraiment passé un très très bon moment. J'étais allée le voir seule et vraiment, j'étais absorbée par le film. Et j'aurais bien aimé voir ce que ça pouvait donner avec Bugonia. Voilà. Et toi, Elodie ?
Eh bien, moi, je pense que j'ai envie de parler de Projet Dernière Chance, donc le film où il y a Ryan Gosling à l'affiche. Tout simplement parce que j'en ai entendu que du bien, même Vadim, je crois qu'il avait très bien noté ce film-là.
Je l'ai noté 9 sur 10.
Donc, j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir et je le regrette parce que je pense qu'en salle, il devait être super.
Ensuite, la meilleure série que vous avez pu voir durant cette saison de CFM Radio, je sais pas si vous en avez vu, mais moi, de mon côté, j'ai une proposition qui se distingue particulièrement par sa rigueur, c'est la série Pluribus. C'est un projet qui se fait remarquer avant tout par son architecture scénaristique et sa construction narrative assez complexe, le travail et le scénario, et enfin, l'idée centrale, elle y est, mais vraiment remarquable. Pour pas trop vous spoiler, toute l'humanité a été contaminée par un virus alien qui les unit en une seule personne, sauf notre personnage principal et une dizaine d'autres personnes, et c'est tellement intéressant, c'est très 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 réaliste. C'est une œuvre qui est particulièrement rigoureuse, qui a montré une vraie maturité dans sa direction artistique. Après, je pense que c'est parce que aussi le réalisateur, c'est celui de Breaking Bad, donc pour tous ceux qui apprécient les récits denses et les atmosphères maîtrisées, c'est une réussite incontournable de ces derniers mois. Et toi, Lina ?
Moi, il est temps de vous avouer que je ne regarde presque pas de séries, si ce n'est que Irma Vep cette année. Je ne suis pas tellement série, alors je peux vous parler de ma série préférée, qui est Sherlock. Mais mon truc, c'est les films. Il y a Nana que j'aime beaucoup, mais sinon, je n'ai pas tellement de préférés. J'ai la série Sherlock, avec Benedict Cumberbatch, qui est très original et que j'aime beaucoup, notamment dans ce mélange entre modernité et tradition, entre guillemets. Et toi, Elodie ?
Alors moi, écoute, Lina, c'est un peu comme toi, je regarde très peu de séries, mais il y a quand même des séries dont je fais l'effort de regarder, c'est les séries Arte. J'adore ce qu'ils font. Donc j'ai pu en voir pas mal cette année, et j'avais rattrapé une série qui avait été ultra connue en 2024, là, Samuel. Il parle d'un enfant là en primaire, du passage d'un enfant, on va dire, à la préadolescence. Et je suis quelqu'un de très nostalgique, donc j'avais adoré cette série. Franchement, elle est super, c'est sous forme de dessin animé noir et blanc. Enfin, j'avais adoré l'esthétique enfantin. De toute façon, les séries Arte sont toutes des chefs-d'œuvre. Mais je l'ai regardée cette année et franchement, je suis quelqu'un d'hyper nostalgique et la série, elle a vraiment marché sur moi, je l'ai adorée.
Et bien maintenant, on attaque la dernière section, c'est le film à voir avant que l'on arrête. On va donc vous vendre notre film préféré à chacun de nous. De mon côté, pour terminer ma toute dernière sélection dans cette émission, si je devais vous laisser qu'un seul long métrage, ce serait mon film préféré, La vie rêvée de Walter Mitty, réalisé par Ben Stiller. Sa trajectoire tient en une formule: rêver pour fuir, vivre pour exister. Walter Mitty incarne une génération effacée, écrasée par une structure sociale où l'on vit pour travailler. C'est un homme sacrifié qui s'accroche à ses rêveries pour ne pas sombrer. Loin de ses comédies habituelles, Ben Stiller livre ici son œuvre la plus intime. La mise en scène, d'abord douce et contemplative, confond le rêve et la réalité avec une grande finesse, faisant naître une émotion très pure, là où on ne l'attendait pas. Puis le film bascule. Quand Walter quitte enfin ses projections mentales pour affronter le monde, l'espace, le cadrage et la lumière prennent une autre ampleur, notamment à travers les décors d'Islande, magnifiés par une photographie splendide et rigoureuse. Sur le plan sonore, le choix de Space Oddity de David Bowie, c'est d'une justesse, mon Dieu. Il marque le moment précis où le rêve devient réel, où le personnage cesse d'imaginer sa vie pour enfin la vivre. C'est sans doute l'une des séquences les plus puissantes du film. Alors la structure reste classique et l'intrigue amoureuse est attendue, mais le cœur du récit est ailleurs. C'est une quête existentielle, un regard sur une époque où la productivité et la vitesse écrasent le droit à l'émerveillement. Walter cherche simplement à reprendre possession de sa propre respiration d'un monde qui court sans s'arrêter. Ce n'est pas au niveau scénaristique le meilleur film, on s'attend à pas mal de choses. Je pense que objectivement, ça mériterait plutôt un 7 sur 10, mais selon moi, c'est une œuvre poétique qui touche tellement sans jamais surjouer, sans prétention, et elle a ce rare pouvoir de modifier un peu la perspective que l'on a sur notre propre existence. Alors c'est précisément pour ça que, selon moi, c'est un 10 sur 10. Et toi, Lina, c'est quoi ton film phare ?
Alors moi, en décembre 2023, j'ai eu l'occasion de regarder Barry Lyndon pour la première fois de ma vie, donc un film réalisé par Stanley Kubrick en 1975. Et à partir de ce moment-là, je sais que c'était mon film préféré, et ça n'a pour le moment pas changé depuis. Alors, vu que tu me prends un peu de cours, je peux te donner le synopsis d'Allociné, si tu veux, parce que je ne saurais pas l'improviser maintenant, là, tout de suite. Alors, au XVIIIe siècle, en Irlande, à la mort de son père, le jeune Redmond Barry ambitionne de monter dans l'échelle sociale. Il élimine en duel son rival, un officier britannique amoureux de sa cousine, mais il est ensuite contraint à l'exil. Il s'engage dans l'armée britannique et part combattre sur le continent européen. Il déserte bientôt et rejoint l'armée prussienne des soldats de Frédéric II afin d'échapper à la peine de mort. Ensuite, il est envoyé en mission, donc il doit espionner un noble joueur et mène un double jeu, se retrouve sous la protection de ce dernier. Il s'introduit ensuite dans la haute société, enfin, et parvient à devenir l'amant d'une jeune riche et magnifique femme, Lady Lyndon. Alors, le film dure 3 heures, il est vrai. Mais ça a été mon coup de cœur. Peut-être parce que, très subjectivement, c'est les plans qui m'ont touchée, puisque Stanley Kubrick s'est lancé un défi avec son directeur de la photographie. Il a coopéré à la NASA pour avoir un objectif qui permet, avec des réglages un petit peu plus compliqués, d'avoir plus de lumière qui rentre dans son objectif pour pouvoir utiliser le moins de lumière artificielle possible pour que ça puisse ressembler à une peinture en fait en mouvement pendant 3 heures. Et j'ai été très très captivée par ce film et par ce défi qu'il avait pu se lancer. Et pour finir, je trouve que en dehors de tout l'aspect de l'image, il y a vraiment un message derrière, un message que je peux pas citer parce que ce serait du spoil, mais il y a un message profond derrière, et c'est très très intéressant et depuis c'est quand même mon film préféré. Toi Elodie ?
Eh bien moi Lina, je vais vous parler tout simplement de C'est arrivé près de chez vous. Donc si vous aimez les sentiers qui sortent complètement des sentiers battus, alors je vous le conseille. En fait, c'est un faux documentaire belge qui est tourné en noir et blanc avec une caméra portée et qui donne l'impression d'assister à des événements réels. On suit une équipe de tournage qui filme le quotidien d'un tueur en série et c'est là que tout devient fascinant. En effet, ce qui rend ce film unique, c'est son humour noir. Donc, il est parfois très dérangeant avec certaines scènes à ses limites, mais c'est toujours fait très intelligemment. Il joue sans cesse avec les limites entre le rire et le malaise, tout en critiquant la fascination des médias pour la violence. Personnellement, je lui mets 5 sur 5 parce que j'adore absolument toute sa mise en scène en cinéma direct, son originalité, ses dialogues et sa façon de nous faire réfléchir tout en nous choquant. C'est un film qui ne laisse personne indifférent et c'est précisément pour ça qu'il mérite d'être vu et c'est précisément pour ça que j'en parle aujourd'hui parce que c'est mon film préféré.
Eh bien, merci Elodie pour nous avoir un peu vendu ce film. Merci aussi à toi Lina. J'espère que les auditeurs voudront aller voir les films que nous leur avons proposés. Et quant à moi, je tiendrai à vous remercier pour la chance incroyable que j'ai eue et qu'en fait on a eue de pouvoir partager notre passion, de pouvoir s'engueuler même entre temps et sur des choix quand même un peu de mise en scène avec Lina, mais c'est surtout de transmettre notre amour du grand écran à la radio. Un immense merci à toute l'équipe technique de CFM Radio, merci à Rémi et un immense merci du coup à vous tous qui nous avez écoutés, que ce soit en direct ou en podcast cette saison aussi et bien les précédentes. Prenez soin de vous, continuez d'aller au cinéma, d'être curieux, de pousser les portes des salles obscures. C'était Retour vers le cinéma sur CFM Radio. Bonsoir tout le monde.
Eh bien merci Vadim d'avoir mis un point final pour clore cette saison. Mais n'oubliez pas qu'on revient l'année prochaine. Donc malheureusement vous perdrez mes deux acolytes. Mais je resterai là avec une nouvelle équipe. Et donc vous pourrez toujours retrouver Retour vers le cinéma à partir de septembre.
Eh bien merci et au revoir. Parce que moi ça fait deux ans que je suis là, je suis un petit peu émue. Mais je vous écouterai. Et si ça va pas, je ferai comme... le vieux Yann Pascal qui m'engueule parfois, qui me dit « Ouais, ça, c'est pas bien. » Eh bien, je ferai exactement comme lui, mais avec vous. Bisous à tous !